Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour. Demeures et familles, une fois de plus, proposées par les Toulousains de Toulouse. Nos deux guides, Michel de Rivoire et Aline Thomazin, vont aujourd'hui nous amener dans les traces de la famille de Reiche de Pénautier. À la fois hôtel particulier, château dans l'Aude et famille puissante au XVIIe siècle.
Et nous allons voir surtout la suite, XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc nous sommes 16 rue Vélane. Est-il besoin de localiser la rue Vélane, Aline ?
Oh, je pense oui, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de la ville. Mais je vous laisse le faire.
Alors,
sommes dans le quartier parlementaire, on a dit l'autre jour.
Tout à fait,
en plein centre. Dans ce quartier.
Vraiment l'épicentre du quartier parlementaire. La rue Vélane prend son débouché central vers le centre sur la place Perchepinte. Donc elle rejoint la rue Perchepinte. Et on n'est pas loin du rempart tout de même. Hein. La rue Escoussière à Montoulieu est au bout de la rue Vélane. Et la rue de la Harpe, qui en fait le tour.
À l'arrière de la rue Ozène.
Voilà. Qui est postérieure, ce que nous allons dire. Mais c'est vrai que pour situer, c'est vraiment ce qui convient, c'est de situer cela près de la rue Ozène. Donc on est devant un bel hôtel, certes, qui donne une idée relativement fade de ce qu'il a pu être au tout début, et surtout après les aménagements des propriétaires dont nous allons parler. C'est un hôtel tout à fait 17e, milieu du 17e, vers 1650-1654 pour être précis, qui a été construit pour un membre fortuné d'une puissante famille de la région de Carcassonne, Henri Reiche de Pénautier, simple conseiller parlementaire au moment de sa commande. Mais la lune, il a de qui tenir.
Un père, une famille, vous avez raison, de très très... De très très grande aisance, puisque le père, je pense, Bernard de Pénautier, dont Henri Reiche de Pénautier, dont nous allons parler, a hérité de la charge, et cette charge, elle était celle de trésorier général des États du Languedoc et receveur général du clergé. On comprend qu'à la mort...
Les deux ordres.
On comprend qu'à la mort du père en 1650, eh bien, finalement, Henri Reiche de Pénautier a eu largement...
De quoi investir. Tout en restant un simple conseiller la pyramide parlementaire.
Tout ça a été très bien, contrairement au frère qui, lui, a été un financier un petit peu plus contestable. Très puissant, mais contestable.
Alors, cette famille de Reiche de Pénautier va rester dans la rue Vélane, finalement, peu de temps. Ce bel hôtel, un demi-siècle, même pas, enfin à peine. Et c'est ce que nous disons assez souvent, c'est la rotation, on pourrait dire, des propriétaires. Alors, lui va construire un hôtel entre cour et jardin, certes, mais sur un modèle assez sobre, une porte cochère sans décor, par exemple, sur la rue. Bon, il y a eu des aménagements postérieurs, on s'en doute, mais il faut retenir que c'est une des plus grandes parcelles entre cour et jardin du quartier parlementaire.
Comparable à l'hôtel d'Espy, par exemple, trois rumages.
Alors, je ne me risquerai pas à comparer, mais on est dans les top 10, je dirais, de ces grandes parcelles du centre. Ce qui a permis aux successeurs de ce Reiche de Pénautier faire un des plus beaux jardins de centre-ville qui soit, et on va en dire un mot tout de suite. Simplement, il faut évoquer, avant de passer à la famille Riquet de Bonrepos, puisque c'est eux qui vont acheter en 1712 au Reiche de Pénautier, il faut évoquer la belle demeure de campagne, un peu plus au centre du Languedoc, puisqu'on est à sortie de Carcassonne en Toulouse.
Oui, le château de Pénautier.
Qui est le château de Pénautier, une grande propriété viticole,
qui fait
économiquement aujourd'hui très très connaît le succès.
Qui est ouvert à la visite,
qui reçoit des groupes, enfin qui a vraiment une activité, qui est un modèle, on pourrait dire, un modèle économique pour ceux qui veulent restaurer château. Et donc, c'est vraiment les descendants directs de cette famille.
Ils possèdent. Oui, qui ont le mérite vraiment d'animer et de faire vivre
et de transmettre
ce domaine.
Et de le transmettre à leurs enfants.
Le château qu'on appelle le Versailles du Languedoc.
Parce qu'il était très étendu. Sa façade a été triplée même.
Oui.
Et là, donc, je pense que dans les proportions, on se retrouve effectivement. Alors, on a moins de perspectives à le nôtre, mais enfin, ni de bassin. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes pas loin de
voilà qu'arrive le fils de Pierre-Paul Riquet, Mathias.
Alors, Jean Mathias, c'est un des deux fils. Et qui est celui qui reprend tout, je dirais, le volet parlementaire de la famille. C'est-à-dire, vraiment, il endosse les chevaliers, conseiller du roi en ses conseils, qui est un titre, et second en président du Parlement. Il va avoir trois épouses, Louise de Montaigne étant la dernière, et c'est elle qui va transmettre à son propre fils, Jean-Gabriel Amable Riquet de Bonrepos, 1709-1791, l'hôtel qui nous occupe, rue Vélane, mais aussi les nombreuses propriétés de cette famille autour de Toulouse, ces maisons de campagne, plus ou moins proches, au nombre desquelles le domaine de Bonrepos, peut-être la propriété de Frescati, qui était si chère. Mais c'est peut-être déjà vendu à ce moment-là pour payer les successions, les partages. La rue, l'hôtel de la place Saint-Lingros actuelle, avait disparu. Riquet est mort, mais enfin, il n'était plus dans la famille à ce moment-là. Donc, ils étaient en recherche d'un bel hôtel dans Toulouse. Voilà. Et ils vont y faire des travaux. Ce procureur général, Jean-Gabriel Amable Riquet de Bonrepos, il n'a que des filles. Il a un garçon, Gilles, un fils aîné, qui va mourir assez vite, qui n'a pas de postérité. Et donc, il va marier ses filles, et il lui faut le meilleur décor. Et à tel point que l'apothéose sera en janvier 1768, et nous le savons grâce au chroniqueur Pierre Barthès, qui a beaucoup travaillé sur cette époque, la plus belle fête donnée à Toulouse de mémoire d'homme, vous vous rendez compte, en l'honneur d'un prince de Beauvau, qui était commandant de la province de Languedoc, donc le représentant du roi. Donc vraiment, on agite l'éventail.
Un niveau très élevé.
Voilà, un niveau très élevé et les moyens qui vont avec. Bon, alors...
Et donc, est-ce qu'il y a eu à cette époque-là, pour vraiment accueillir ce faste, est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits pour vraiment ajouter encore de la brillance à cet hôtel?
C'est une remarque essentielle, puisque quand vous êtes dans la rue Vélane, et que par chance, puisque c'est tout de même de nos jours, le porche est souvent ouvert, puisque elle abrite les locaux d'une antiquaire que peut-être parmi nos auditeurs, que certains connaissent, qui s'appelle Laure Baudet. Je pense que c'est la petite-fille du chirurgien. Alors là, je m'adresse aux plus aînés d'entre nous, mais chirurgien,
oui.
Quand on avait une chute de ski dans les Pyrénées, il fallait tout de suite voir le professeur Baudet. Bon, donc elle-même est la fille de Madame Baboulet, qui était aussi, je pense qu'elle était adhérente aux Toulousains de Toulouse.
Oui, tout à fait.
Amie des artistes, et elle avait réservé dans son hôtel, je vous parle du XXe siècle, un appartement entier de l'hôtel pour loger des artistes en résidence. Voilà. Mais revenons à votre question.
Oui.
Alors, il est évident qu'aux autour de 1750, il faut être à la page, surtout avec l'historique que nous allons dire. Et pour cela, je ne veux pas donner le nom des intervenants ni des corps de métier, mais c'est deux choses. C'est la façade sur jardin, parce que c'est là où se passent les fêtes.
Ah oui.
Le jardin lui-même, bien évidemment, et les décors intérieurs. Voilà. Mais si vous voulez, le portail n'a pas de blason, on ne le voit pas, il n'a pas enrichi, il reste dans sa sobriété initiale. La cour d'honneur n'est pas non plus embellie,
on reste
utilitaire. C'est vraiment le jardin qui concentre, et ça c'est nouveau.
Alors,
pour le 18e siècle.
On ne montre pas sur la rue, j'ai vu bien.
Tout à fait, et à l'époque il n'y a pas de drone, on ne peut pas aller voir ce qui se passe.
Oui.
Il y a quelques petits vis-à-vis, mais je citerai juste ça, il reste encore, pour ceux qui ont la chance, et c'était le cas pour moi, et un groupe de visiteurs, d'apercevoir au fond du jardin, contre un mur aveugle, un magnifique treillage, vous savez, en bois, à l'image de ceux qu'on peut voir dans les grands jardins, Versailles et autres, et qui est encore en place, et qui est vraiment une trace de ce que pouvait représenter un jardin. Certainement à la française, avec un bassin jet d'eau, etc., pour accueillir ces fêtes diurnes et nocturnes, et en particulier le mariage des filles du procureur général. Celui-ci meurt en 1791. L'hôtel passe à sa fille, une de ses filles, Madame d'Avesan, J'espère que je prononce bien. Et c'est malheureusement, enfin, pour elle, tu dirais, elle n'est pas inquiétée dans le sens où elle reste, elle garde la propriété, mais comme elle est environnée dans sa famille proche d'émigrés, de réfractaires, son propre père, bon, il meurt en 1791, mais par exemple le beau-père de sa sœur, qui est M. de Cambon, est le dernier président au Parlement, et c'est lui qui va être emprisonné, c'est elle, sa femme, oui, la sœur de Madame d'Afsan, donc la dernière propriétaire de l'hôtel Reich de Ponotier, c'est elle qui va être prise à la place de Monsieur de Cambon et guillotinée la veille du 9 Thermidor. Ah, oui. Donc dans cet environnement, elle conserve quand même la propriété. On n'a pas le détail, mais il y a certainement eu des inventaires, des tracasseries, de la part du comité révolutionnaire, mais elle conserve l'hôtel et elle le vend, elle le cède à une autre famille très célèbre à Toulouse et au-delà, qui est la famille de Villèle. Et la famille de Villèle, à ce moment-là, c'est le comte Joseph de Villèle, qui sort de l'ombre un peu. C'est une famille très ancienne à Toulouse, une famille terrienne, foncière, hein, qui a encore beaucoup de propriétés dans le Lauragais. Vous savez, les châteaux du Froment, ce réseau de châteaux juchés sur des coteaux, un corps de logis très simple avec deux tours de carré de chaque côté, les communs à proximité, même maintenant, et de nombreuses métairies alternant avec les bois. Ça, c'est à 30 km de Toulouse en moyenne. Eh bien, il est à la recherche d'un bel hôtel. Pourquoi ? Parce que 1815, il sort de l'ombre. Sa femme est une réunionnaise, Mademoiselle des Bassins. Donc, il lui faut un des plus beaux hôtels. Et celui qui est disponible, il vient de l'acquérir de la famille Riquet. Et donc, il s'installe. Et très vite, il reçoit, on est vraiment l'été 1815, il reçoit la duchesse d'Angoulême. Napoléon vient d'être exilé à Sainte-Hélène, et Louis XVIII l'appelle auprès de lui. Il le nomme d'abord maire de Toulouse, et sous la Restauration, donc, nous sommes au tout début de la Restauration, et la duchesse d'Angoulême, rappelons-le, est la fille des rois et reines Louis XVI, et Marie-Antoinette. Tu sais qu'il arrive au bout des lèvres. Eh bien,
tu nous fascines par ton savoir.
c'est le temps qui manque, surtout. Et donc,
mais on en reparlera dans d'autres chroniques. C'est un personnage intéressant.
Voilà. Et à l'occasion de cette... Il fallait faire vite, vous imaginez le chantier. On réalise un parquet pour la visite de cette princesse.
Oui.
Alors, donc, très rapidement...
Il nous faudrait conclure là-dessus, oui, Michel. Oui. Et il ne se visite pas, cet hôtel particulier.
Non, sauf dans le cadre de l'antiquité.
Michel, nous n'avons plus le temps et je crois que nous allons rester sur notre fin, mais que ça va exciter notre curiosité pour une prochaine émission.
Avec plaisir.